Bon matin tout le monde.
Bon matin.
C'est encore un privilège pour moi de venir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur dans les dernières semaines, dans le dernier mois. Et ce dont je veux vous parler ce matin, c'est de l'histoire de Job, de la rencontre de Dieu avec Job, de la rencontre de Dieu avec de la rencontre de Job avec la douleur. Alors, avant de rentrer dans le sujet, courbez-vous avec moi, on va remettre ça dans les mains du Seigneur. Merci, Père Céleste, pour ce privilège que j'ai ce matin encore, qu'on a tous ce matin de pouvoir jeter les regards, Seigneur, sur ce merveilleux livre de Job, sur cette expérience de cet homme de foi, Seigneur Dieu, qui est nécessaire, qui est utile pour nos vies de connaître et de mettre en pratique. Guide-nous dans ta parole ce matin, on te le demande, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, la douleur, Job, il pourrait vous en parler longtemps, il va nous en parler ce matin. Que ce soit de la douleur physique, la maladie, les cancers, des blessures, des handicaps, la vieillesse qui fait son œuvre. Douleur émotionnelle, la tristesse, des problèmes relationnels. Des épreuves dans nos vies, des décès, des pertes. Douleurs spirituelles même, des personnes autour de vous qui vous sont chères, puis qu'ils refusent de considérer l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le livre de Job, c'est un livre poétique. Alors, il y a 5 livres poétiques, les psaumes, les proverbes, Cantique des Cantiques et il y en a un autre là. Alors, c'est écrit de façon poétique. Alors, il y a beaucoup des figures de style, des comparaisons, des métaphores, mais tout en écrivant, tout en nous racontant son histoire, cette histoire-là, c'est fait de façon poétique. On l'a ici. On peut le voir ici en français, mais lorsque vous allez dans le livre des Hébreux, vous allez dans la langue hébreu, bien, ça va être encore beaucoup plus riche en fait de poésie. Le livre de Job, c'est le plus ancien, ce serait le plus ancien de la Bible. Job serait le troisième fils d'Issachar, fils de Jacob et de Léa. On voit ça dans Genèse 46, 13. On a des informations aussi là-dessus dans Genèse 30, 18. Donc, c'est à l'époque des patriarches. Job a vécu 200 ans. Il avait probablement autour de 60 ou 70 ans lorsque le malheur l'a frappé ou les malheurs l'ont frappé. Il y avait déjà 10 enfants d'âge adulte. Le thème du livre, ben, c'est la souffrance. À quoi ça sert la souffrance? L'auteur, c'est pas certain que ce soit Job. La plupart des érudits pensent que ce serait soit Moïse ou soit Élieu, un des personnages qu'on va voir dans l'histoire. Ce matin, je voudrais qu'on comprenne pourquoi Dieu a permis que Job souffre de cette façon-là. Puis aussi, en cours de route, je voudrais ouvrir quelques parenthèses parce que le livre de Job, c'est un livre avec une richesse sans pareil. Ce qu'on connaît de Job, lisons d'abord Job chapitre 1, les versets 1 à 5, ça va nous dire à peu près qui était cet homme-là. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils d'Orient. Le plus considéré de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour des festins et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors, on voit que Job, si on fait son bilan économique, c'était quelqu'un qui était assez prospère. Si on veut évaluer sa richesse aujourd'hui, on peut aller voir comment ça coûte une brebis, puis un bœuf, puis un chameau. Une brebis, ça coûte 300 $, il y en avait 7 000. Les chameaux, ça coûte 3 000, ça coûte 5 000, il y en avait 3 000. Les bœufs, il y en avait 2 000, ça coûte 2 000 chaque. Puis les ânesses, il y avait 500 ânesses à 200 chaque. Alors, ça fait, avec les bâtiments probablement qu'il y avait, les serviteurs, les terres qu'il y avait, ça fait probablement autour d'une trentaine de millions la fortune de Job. Cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. S'il avait été ici à Saint-Just, il serait reconnu dans au moins toute la Beauce, Bellechasse de la Beauce, probablement la province, puis peut-être même le pays. Le caractère spirituel de Job, maintenant, bien, il nous est dit au verset 1 qu'il était intègre et droit. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Au verset 8, encore la même chose, il nous est dit, lorsque Satan vient devant Dieu et que Dieu lui fait remarquer qu'il était intègre et droit et qu'il se détournait du mal. Au chapitre 2, on va le voir, il répond à sa femme. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et au chapitre 42, là, on va voir l'attitude de Job. On le voit tout au long du livre, mais on va le voir au chapitre 42, son humiliation et sa repentance. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, de quoi il va se repentir. Les épreuves de Job. Job est éprouvé, puis on peut classer ces épreuves en quatre intensités différentes. Il y a comme une gradation ou un crescendo dans les malheurs qui frappent Job. Et chacun des malheurs est pire que le précédent. Puis on va voir que ces épreuves-là, ils ont tous la même cause, c'est les attaques de l'adversaire. Mais heureusement, comme on va le voir, Job, il y a des bons amis qui sont venus pour l'encourager. Vous allez voir ça, il y a des bons amis qui sont venus pour l'encourager. La première épreuve que Job a, il perd ses troupeaux. Tous ses biens, il perd tout ça. La deuxième épreuve, il perd ses enfants. Les 10 enfants meurent. La troisième, il perd sa santé. Et finalement, la cerise sur le sundae, il perd l'appui de sa femme. Ici, nous autres, on connaît la cause de ses malheurs, mais lui, il n'a jamais eu connaissance de ce qui s'est passé, de l'entretien qu'il y a eu entre Job, entre Dieu et Satan. Quand les épreuves arrivent, on cherche la cause, on se demande pourquoi. Des fois, c'est parce qu'on s'est mis nous-mêmes les pieds dans les plats. Ça peut arriver. Des fois, c'est parce que c'est à cause du péché. Ça aussi, ça peut arriver. Souvent, ce sont des circonstances qui nous sont, desquelles on a des conséquences à cause des fois, la société qui nous entoure. Comme par exemple, si vous écoutez les nouvelles, au Canada en ce moment, ça va pas tellement bien, dans certains points de vue, économiquement surtout. C'est pas de notre faute. C'est la faute de certains voisins. Mais dans d'autres cas, comme ici dans le cas de Job, c'est l'adversaire, le diable, qui veut mettre les bâtons dans les roues. Soulignons que depuis la croix, Satan n'a plus accès à Dieu, comme on va le voir dans l'histoire ici. Mais il y a encore un certain pouvoir de nous attaquer, mais ce pouvoir-là, il n'est pas infini. Ce pouvoir-là, il est encadré par Dieu. Dieu ne le laisse pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé de Satan? La réponse est non. La réponse est non. Dans 1 Jean, au chapitre 4, les versets 2 à 4, on peut lire ceci. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que Satan peut posséder un chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé de Satan? Non, parce que celui qui est en vous, l'Esprit de Dieu, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est très important de se rappeler ça. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » L'Esprit de Dieu habite en nous. 1 Jean chapitre 5, verset 18. « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Le malin nous attaque, mais si on appartient à Dieu, on ne pêche point. On ne pêche point par sanctification, mais aussi on ne pêche point dans le sens que le péché dans nos vies, il a été payé. La condamnation qui entraînait notre péché, il a été pardonné. Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut subir les attaques de Satan? Bien oui, parce que la parole de Dieu nous enseigne ça. Les apôtres nous enseignent ça. Dans Jacques, au chapitre 4, le verset 7, Jacques dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alors, résistez au diable. Pourquoi résister? Parce qu'il va vous attaquer. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, l'adversaire attaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller, il faut être sobre, il faut être sur nos gardes, il faut être tout le temps prêt de résister à ses attaques. Dans Éphésiens, au chapitre 6, les versets 10 et 11, l'apôtre Paul dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le diable est rusé, puis Dieu il est tout puissant par la force, toute puissance de Dieu. On peut lui résister, comment? En utilisant les armes de Dieu, qu'on a déjà vu ici à quelques reprises. Le premier malheur qui frappe Job, alors là, on va connaître l'histoire de ses épreuves. Job, chapitre 1, verset 13 à 15. Un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, pardon, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors là, c'est le début de, c'est sa première épreuve, c'est le début de ses biens qui lui sont enlevés. Au verset 16, il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ici, c'est la faute de Dieu, supposément. Au verset 17, encore la suite du premier malheur, il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Et curieusement, il y en a toujours un qui s'échappe pour venir apporter la bonne nouvelle. Ça, l'adversaire ne manquera jamais de venir souligner les choses qui ne vont pas bien. Très important pour lui. L'activité dans le monde spirituel. Satan ne baisse pas jamais les bras. Dans Job, au chapitre 2, les versets 1 à 3. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et Satan et l'Éternel devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Alors, c'est le même scénario qu'on a vu au chapitre 1. Ça se poursuit. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Dieu va lui dire, répéter la même chose. « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. » Là, Job avait perdu toutes ses richesses, ses troupeaux, avait perdu ses biens. Malgré ça, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu dit à Satan, tu m'excites à le perdre sans motif. Mais Dieu dit, tu vas comprendre c'est quoi quelqu'un qui est croyant. Tu vas te le montrer, c'est quoi quelqu'un qui est croyant. Le deuxième malheur qui frappe Job, c'est au chapitre 1, verset 18. Il parlait encore. Puis là, on peut voir que à chaque fois qu'il parlait encore, ça revient tout le temps. Ce n'est pas des affaires qui se sont éternisées sur des années, là. Ça s'est passé bang, 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 bang. Une affaire après l'autre. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée et les jeunes gens, ils sont tous morts. Et je me suis échappé moi seul, encore un autre, pour t'en apporter la nouvelle. » Là, c'est plus que, c'est pire que les moutons, là, puis les bœufs, c'est ses propres enfants. Verset 20, « Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de ma mère. » Alors, Job, ici, il va s'humilier, puis écoutez qu'est-ce qu'il va dire pour le reste. « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job se soumet, Job accepte qu'est-ce qui lui arrive. Il perd pas de vue que Dieu il est souverain. Il se dit, Dieu sait ce qu'il fait. On va le voir, il va le dire plus loin. Le troisième malheur qui s'abat sur Job, c'est au chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Autrement dit, ça y fait pas mal, cela, là, mais touche-y sa chair, là. La vraie douleur physique, là, il n'a pas connu ça. Touche-y, puis tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. « Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Un tesson, c'est un morceau de peau cassée. Quand vous vous grattez avec un morceau de peau cassée, ou quand vous vous asseyez, que vous êtes plein de plaies, puis vous vous asseyez dans la cendre, il faut que ça fasse mal pour que ça vous soulage. Alors là, la chair, la santé de Job est affectée. Parenthèse ici encore sur Satan. La croix, c'est une défaite pour Satan. Les accusations de Satan fondées sur la culpabilité qu'on pourrait avoir sur le péché, c'est les accusations qui sont fondées là-dessus sont détruites, sont anéanties. Dans Colossiens au chapitre 2, les versets 14 et 15, on peut lire ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit à la croix. Alors, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est l'acte d'accusation. Paul Juguère, t'es accusé d'avoir fait ça, ça, ça. Puis, la condamnation, c'est ça. Bien, cet acte, ce document-là qui nous accuse puis qui nous condamne, il dit que Dieu, que Christ l'a effacé à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en triomphant d'elles à la croix. À la croix, Christ y a anéanti, il a enlevé l'acte d'accusation, il a triomphé de Satan, des démons. Dans Hébreux, au chapitre 2, verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, il a participé au sang et à la chair, ça veut dire qu'il est venu sur la terre, il s'est fait homme, puis à la croix, par sa mort à la croix, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. La mort est venue comment? Elle est venue par le péché qui était inspiré par Satan. Après la croix, Satan, il continue d'agir, mais il n'a plus accès à Dieu comme on l'a vu qu'il venait devant Dieu pour poser des questions à Dieu, pour défier Dieu. Dans Romains au chapitre 8, versets 33 à 39, ça nous décrit la grandeur du salut, l'importance et l'immuabilité de ce salut-là que Dieu nous a donné. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui peut nous séparer de ce salut-là que Dieu nous a donné, que Christ nous a acquis à la croix? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les anges, ni les dominations, ni Satan, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'apôtre Paul il utilise toutes les superlatifs qu'il peut trouver pour nous dire que c'est impossible que le salut que Christ nous a acquis à la croix, que cette victoire-là nous soit enlevée. À la croix, les croyants ont reçu des nouveaux pouvoirs. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On a la capacité, en Jésus-Christ, on a la capacité de résister au diable. De quelle façon? En se soumettant à Dieu. Dans Apocalypse, au chapitre 20, verset 10, il faut savoir que si Satan gagne des batailles, des fois, il ne gagnera pas la guerre. Apocalypse 20, 10, et le diable qui séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est comme ça que son histoire va finir. Mais Job, il est éprouvé puis il se lamente. Si vous êtes éprouvé, si vous souffrez, puis vous avez tendance à vous lamenter, soyez pas surpris. Parce que Job, qui nous est mentionné comme un héros de la foi, Job, qui nous est mentionné comme étant intègre et droit et craignant Dieu, il se lamente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma couche et c'est en vain. Écoutez bien ce qu'il dit. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Il se lamentait. Il se lamentait. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. C'est mince, la peau des dents, là. C'est mince, la peau des dents. Alors, le quatrième malheur qui arrive à Job, c'est que sa femme l'abandonne. Au chapitre 2, le verset 9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. » Sa femme n'avait pas la même solidité spirituelle que lui. Et c'est certain qu'elle aussi, elle a perdu ses enfants, puis elle a perdu les biens de leur patrimoine, puis que là, elle entendait son mari qui gémissait, puis qui gémissait. J'ouvre une petite parenthèse ici. Dans Genèse, quand Dieu a placé la femme à côté de l'homme, il a dit « Je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est la raison pour laquelle Dieu a placé la femme aux côtés de l'homme. Messieurs, si vous pensez que vous pouvez vous passer de votre épouse, vous vous trompez. L'homme a besoin de son épouse. Mesdames, votre mari a besoin de votre aide. Mesdames, si vous pensez que vous pouvez vous passer de l'amour de votre mari, vous vous trompez aussi. L'homme a besoin du respect de son épouse et de son aide. Il a besoin de se sentir important pour elle. La femme a besoin de sentir qu'elle est précieuse pour son mari. Elle a besoin qu'il lui manifeste son amour, pas seulement sur l'oreiller, mais toujours, par sa présence, par son attitude. Ça, c'est le secret d'une vie de couple heureuse. Puis ces deux comportements-là sont indispensables, puis sont indissociables pour une vie de couple heureuse. Cherchez pas si votre mari fait la bonne affaire, puis Marie, cherchez pas si votre femme fait la bonne affaire. Assurez-vous chacun que vous-même, vous faites la bonne affaire, que vous obéissez à la parole de Dieu dans ce domaine-là. Fin de la parenthèse. Job, il ne bronche pas. Il dit, Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal? En tout cela, Job ne pécha point. » On avait vu ça tantôt. Mais heureusement, Job, il y a des amis. Puis quand l'épreuve nous frappe, on réfléchit puis on cherche les causes. Puis parfois, nos amis aussi cherchent les causes. Ses amis sont, on pourrait les considérer de croyants à écouter leurs discours. Ils connaissent certaines vérités sur Dieu. Ils paraissent même être assez spirituels, en théologie du moins. Mais ils sont légalistes. Ils sont un petit peu comme les pharisiens. Ils voient la paille dans l'œil de Job et ils ne manquent pas de lui dire, de lui rappeler. Certainement, si Job est aussi durement éprouvé, il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa vie. Voyons rapidement ces trois amis. Éliphaz, dans Job 4, versets 7 à 9, il dit « Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui périt. Quels sont les justes qui sont exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent le fruit. » Michel nous a parlé de ça l'autre jour. Celui qui sème le vent, il récolte la tempête. Alors, c'est ça son diagnostic. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de la colère. Éliphaz se croit lui-même sans péché. Il pense qu'il doit sa santé. Alors, lui est en santé. Il pense qu'il doit sa santé à son intégrité devant Dieu. Si Job, il est malade, c'est parce qu'il pêche. Lui est en santé, ben c'est parce qu'il est correct. La souffrance et la maladie sont des conséquences de la chute dans le jardin d'Éden. Puis nul n'y échappe, d'une façon ou d'une autre. Nul n'y échappe. Bildad, son second ami, lui, il dit des vérités, mais la compassion n'est pas forte. Dans Job 25, versets 4 à 6, « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici la lune, et même, n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. » Alors là, je vous parlais de poésie, là, ça n'est de la poésie, là. C'est des métaphores. « Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, et le fils de l'homme qui est un vermisseau. » Alors, Bildad, il dit, on est tous pareils. Mais si vous lisez, il y a plusieurs passages, on va voir qu'il n'y a pas une grosse compassion. Tsophar, le troisième ami, il n'est pas en reste avec les deux autres. Pour sa part, la solution, bien, il y a des conseils à donner. Il va dire à Job, il sait quoi faire, lui. Il va dire à Job quoi faire. Dans Job 11, versets 13 à 17, « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et tente vers lui tes mains. » C'est pas compliqué. Si tu veux que ça change, va vers Dieu. « Éloigne-toi de l'iniquité. Ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme les eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. » Alors Job, il a tout perdu, sa femme le renie, il souffre, puis son ami va lui dire, « Tourne-toi vers Dieu, puis ça va être, c'est pas plus compliqué que ça. » Alors pour Tsophar, aussi, la cause des maux de Job, c'est le péché. Et sa solution, c'est simple, éloigne-toi du péché, puis tu vas oublier tes souffrances. On a vu que Job était intègre devant Dieu. Alors, on comprend bien que ses amis n'ont pas raison de dire ça. Le péché, ça n'égale pas la souffrance. Puis l'absence de péché, ça n'égale pas l'absence de souffrance non plus. Nous sommes tous des pécheurs, puis on a hérité de cette nature-là d'Adam et Ève. La défense de Job, dans Job au chapitre 27, verset 6. Alors, tout au long du livre de Job, Job maintient qu'il n'a pas commis de faute qui justifierait les terribles malheurs qui lui arrivent. Contrairement à ses amis, qui soutiennent que la souffrance est toujours la conséquence du péché, Job affirme son intégrité et demande à Dieu de lui expliquer pourquoi il souffre. Alors, au chapitre 27, verset 6, « Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sous aucun de mes jours. » Alors, Job, il va énumérer les causes possibles, les péchés possibles qui pourraient avoir entraîné ça. Puis il dit, je n'ai pas fait aucun de ces péchés-là. Alors, il reconnaît qu'il est un pécheur, comme tous les êtres humains, mais nie avoir commis des crimes qui méritent un tel châtiment. Et Job désire plaider sa cause devant Dieu. Il dit, je veux, dans chapitre 13, verset 3, je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. Si vous souffrez, si vous avez des épreuves, puis que vous questionnez Dieu, surprenez-vous pas, Job le fait. Et je dirais même plus, il faut le faire. C'est ça qu'il faut faire. Questionner Dieu. Il demande un procès équitable où Dieu lui ferait connaître les accusations portées contre lui. Il dit, il était prêt à écouter ce que Dieu lui reprochait. Job expose sa conduite passée. Alors là, les versets 29 à 31, il rappelle comment il aidait les pauvres, les veuves, les orphelins qui pratiquaient la justice. Michée 6-8, on t'a fait connaître ô homme ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Job, c'est ça qu'il disait. Le chapitre 31 est en quelque sorte sa plaidoirie finale devant Dieu. Il énumère plusieurs péchés possibles et il déclare ne pas les avoir commis. Alors, les versets 29 à 31, c'est la défense de Job. Il y eut un quatrième ami qui arrive, lui plus jeune, contrairement aux trois amis, aux trois autres amis, Élu ne soutient pas simplement que la souffrance est toujours une punition pour un péché précis. Alors, selon lui, Dieu peut utiliser la souffrance pour avertir une personne, pour la corriger, pour la préserver de l'orgueil, la rapprocher de lui. Alors, c'est toutes des raisons qui peuvent être possible. Même s'il est plus proche de la vérité que ses trois amis, Élieu ne possède pas toutes les réponses. Il suppose encore que la souffrance de Job a un but correctif ou disciplinaire. Or, le lecteur sait bien, on sait bien que c'est pas ça la cause des souffrances de Job. C'était pas pour la correction. C'était à cause de l'intervention de Satan. La conclusion du livre de Job, elle se trouve au chapitre 42. Ce qui est remarquable, c'est que Job ne reçoit jamais l'explication des événements qui se sont déroulés dans sa vie. Il ne reçoit jamais l'explication de ce qui s'est passé au chapitre 1, chapitre 2, lorsque Satan vient se présenter devant Dieu. Dieu ne lui révèle pas l'entretien avec Satan. Pourtant, Job arrive à une conclusion profonde. Job, il découvre que il connaissait Dieu, mais d'une façon limitée. Regardez avec moi Job au chapitre 42. On va lire chapitre 42, de 1 à 6, puis après ça, je vais le commenter. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée, à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir tes desseins? Oui, j'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Job, il réalise que, oui, il connaissait Dieu. Oui, c'est un croyant. C'est un croyant. Avant l'épreuve, Job connaissait Dieu véritablement, mais après l'épreuve, sa connaissance de Dieu est devenue beaucoup plus approfondie et de beaucoup plus personnelle. La plus grande bénédiction de Job à la fin, évidemment, il y a la restauration de sa santé, la restauration de ses biens. Mais sa plus grande bénédiction, C'était sa connaissance renouvelée, puis sa relation renouvelée avec Dieu. Il dit, maintenant, mon œil te voit. On sait que Job n'a pas vu Dieu avec ses yeux. C'est encore là, c'est poétique. Il voulait dire que maintenant, je te connais beaucoup mieux qu'avant. Job, il reconnaît les limites de sa compréhension. Lorsque Dieu lui pose des questions sur la création, Job réalise combien son savoir est restreint. Alors, on voit dans les chapitres précédents que Dieu énumère des choses de sa création, puis pose des questions, puis Job, il n'y a aucune réponse à ça. Pas plus que nous autres aujourd'hui, d'ailleurs. Il comprend qu'il avait demandé des comptes à Dieu sur des réalités qui dépassaient sa capacité de compréhension. Dieu questionne Job sur la création, question auxquelles Job n'a aucune réponse. Job s'humilie devant Dieu. Il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. Cette repentance-là, ce n'est pas la repentance du péché dans le sens où ce que ses amis l'entendaient, parce que, encore là, on a vu au chapitre 1 qu'il était intègre et droit devant Dieu. Mais il se repent d'avoir parlé au-delà de ce qu'il comprenait, d'avoir laissé la souffrance l'entraîner vers des paroles téméraires, d'avoir voulu contester les voies de Dieu, d'avoir questionné Dieu. Alors oui, il a questionné Dieu, mais Dieu lui a montré qu'il n'y avait pas à questionner. Job apprend à faire confiance sans tout comprendre. Au début, Job voulait surtout une explication. À la fin, il découvre que la présence de Dieu est plus importante que l'explication. Lorsqu'on souffre, on voudrait connaître les causes, on voudrait connaître des réponses, on voudrait avoir des réponses de Dieu. Mais la chose qui est la plus importante, c'est notre relation avec Dieu. C'est de faire confiance à Dieu. Job, il passe au début avec la question « Pourquoi cela m'arrive-t-il? » Puis il finit avec la conviction « Dieu sait ce qu'il fait même lorsque je ne comprends pas. » Dieu sait ce qu'il fait même lorsque je ne comprends pas. Dieu est souverain. C'est ça la conclusion à laquelle Job arrive. Job est rétabli. Finalement, on voit que Job est rétabli. On n'ira pas tout ça, là, mais on voit que Job est rétabli, qu'il y a des fils et des filles encore. On ne sait pas si c'est avec la même femme, mais il y a des fils et des filles encore. Il y a des troupeaux en abondance encore. Et Dieu réprouve ses trois amis et demande à Job de prier pour eux. Ainsi, celui qui souffrait devient l'intercesseur de ceux qui l'accusaient, de ceux qui le reprenaient. La conclusion de ce livre-là, de toute l'histoire de Job, de toute la souffrance, des souffrances qu'on peut avoir dans nos vies, c'est que Dieu y est souverain. Puis, ce qui est important dans nos vies, c'est de faire confiance à Dieu. Ce n'est pas d'avoir les réponses de Dieu nécessairement, mais c'est de faire confiance à Dieu, de toujours garder à la mémoire que Dieu est au contrôle. Et une chose que je trouve vraiment merveilleuse, pour terminer, c'est que Dieu a exaucé une prière de Job. Job a fait une prière, dans ses lamentations, il a fait une prière. Job, il est exaucé vraiment d'une façon extraordinaire. Au chapitre 19, à partir du verset 23, il dit « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Job, il dit, dans ses souffrances, il dit, je voudrais que ce que je dis là aujourd'hui, que ce soit écrit avec un burin sur le roc. Et aujourd'hui, on a ce livre-là ici qui raconte l'histoire de Job. Job y a été répondu dans cette prière-là. Job y a été répondu dans cette prière-là. Et aussi, Job, il a été béni, il a été répondu dans son espérance, parce qu'il dit, « Quand ma peau sera détruite, je le verrai. » Et Job, il est mort, puis on sait que Job, c'est un héros de la foi, puis il est allé à sa mort dans la présence de Dieu. Alors, la leçon qu'on doit tirer du livre de Job, c'est Dieu est au contrôle, puis on n'a pas besoin d'avoir de crainte, on n'a pas besoin de craindre les débordements de l'adversaire pour nos vies. Dieu est au contrôle, puis Dieu ne permet pas, il dit, l'apôtre Paul, il dit, je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors que Dieu bénisse sa parole, puis que Dieu nous donne la grâce de se confier en lui, de se remettre à lui pour tous les maux qui peuvent nous atteindre.